Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous explorons aujourd'hui une des grandes découvertes d'Augustin, une des plus grandes, qui est la découverte de la volonté. Cela voudra dire qu'il nous faudra explorer la découverte de l'épreuve de la volonté, c'est-à-dire la liberté. C'est un des plus grands thèmes de l'histoire de la philosophie, le thème fondateur de la philosophie moderne. La volonté, l'épreuve de la volonté, l'épreuve de la liberté. Si nous disons qu'un être humain a une volonté, qu'il peut exercer cette volonté, cela nous paraît trivial, cela nous est bien familier. Et cependant, c'est suite à une découverte qui a toute une histoire que je ne retracerai pas ici, qui passe notamment par les stoïciens et par Épictète, mais qui émerge éminemment avec saint Augustin. C'est donc suite à cette histoire que la volonté a été découverte. Aussi étonnant que ce puisse paraître, l'idée de volonté ne va pas de soi, et il a fallu plusieurs penseurs et plusieurs siècles de philosophie pour explorer cette puissance de l'âme que nous nommons la volonté. Comment le problème s'est-il posé pour Augustin ? Si nous lisons Platon et Aristote, nous voyons qu'ils ne connaissent pas la volonté en tant que telle, comme une puissance de l'âme. Ils connaissent ce qu'ils appellent en grec le nous, l'intellect, et ils connaissent donc la puissance de l'intellect. Et pour un philosophe grec, nous le savons, la chose la plus précieuse qui soit, qui distingue l'homme de tout animal, c'est la présence en lui de l'intellect. Chez Aristote, par exemple, c'est l'intellect qui permet à un homme d'agir, parce que c'est cet intellect, ou cette intelligence si nous préférons, qui permet à un homme de connaître différentes possibilités d'action et qui permet donc à l'homme de penser. Mais pour Aristote, puisque c'est l'intellect qui permet à l'homme de connaître, savoir ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire dans une situation donnée pour un être humain, politique, social, économique, militaire, eh bien c'est ce même intellect qui, parce qu'il sait, conduit l'élection. L'élection, c'est-à-dire la décision. Voilà. Je serai médecin, je serai plombier, je serai soldat, que sais-je. Et c'est donc cet intellect qui, parce qu'il sait, est capable de trancher, capable de décider. Ce qu'Augustin découvre, c'est que l'intellect, en vérité, ne suffit pas. Ce qu'il découvre, c'est qu'il ne suffit pas de savoir pour agir, pour accomplir, pour faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a à découvrir une nouvelle puissance de l'âme qu'il appellera avec la tradition stoïcienne la volonté. Il ne suffit pas de savoir parce qu'il nous faut aussi vouloir. Pour prendre un exemple trivial, nous pouvons expliquer à un diabétique qu'il ne doit pas manger de sucre, mais il ne suffit pas de lui dire, il peut très bien le savoir, sans pour autant être capable de se retenir dans la vie quotidienne. Donc ce qu'Augustin découvre, c'est la nécessité absolue d'intelligence. Ce qui honore l'homme, c'est la capacité de connaître, de penser, de connaître la vérité. Mais ce qu'il découvre en même temps, c'est l'insuffisance de l'intelligence toute seule. Il ne suffit pas de connaître, il faut encore vouloir. Et le plus tragique ici, c'est qu'un être humain peut parfaitement savoir ce qui est le meilleur, ce qui est bien dans une situation donnée ou absolument parlant, et pour autant ne pas parvenir à dire oui, ne pas parvenir à un acte de la volonté, c'est-à-dire un acte libre de la volonté qui dit oui. Voilà. Alors, ce qui est certain en lisant les confessions d'Saint-Augustin, c'est que cette découverte, il l'a mis des années à la faire, et qu'il l'a faite en explorant sa propre expérience. Sa propre expérience, c'est l'expérience d'abord d'un homme qui se lance dans la philosophie, et qui petit à petit découvre précisément la volonté. Quand il se lance dans la philosophie, il le raconte très bien au livre 5, notamment des Confessions, il passe nécessairement par ce qui s'appelle le scepticisme, c'est-à-dire un moment de doute, un moment où tout lui paraît incertain, tout lui paraît douteux, un moment donc de grande crise intellectuelle. Ce qui veut dire que du côté de la vérité, tout lui paraît incertain et la vérité elle-même lui paraît incertaine. Non seulement il doute, mais encore il désespère. Il y a des pages éblouissantes, des pages même qui préfigurent les penseurs romantiques, dans lesquels Augustin dit sa souffrance d'être soi et la souffrance de la souffrance d'être soi. Donc du point de vue intellectuel, Augustin expérimente une immense détresse. Il doute de la vérité, il désespère de jamais trouver la vérité ou quelque chose de vrai. Mais cette crise intellectuelle sera résolue par un cheminement intellectuel, par un travail intellectuel. Dans ce travail, Plotin jouera un rôle décisif. La lecture des néoplatoniciens, donc l'écriture de Plotin, jouera un rôle décisif. Et c'est grâce à l'évêque de Milan, Saint-Ambroise, qu'Augustin rencontrera à Milan, qu'Augustin découvrira justement cette philosophie. Cette philosophie lui permettra de mieux connaître l'intelligence et de découvrir toute la puissance de l'intellect humain. Mais cela ne suffit pas. Ce qu'Augustin découvrira à partir de là, c'est qu'il ne lui aura pas suffi de savoir, parce qu'il lui faudra encore vouloir. Et là encore, c'est quelque chose de capital. Les psychologues aujourd'hui, les psychiatres le savent bien, et c'est leur pain quotidien. Il ne suffit pas d'éclairer l'intelligence d'un homme, il faut encore éclairer sa volonté, il faut encore, je dirais ici, convertir sa volonté. Donc ce qu'Augustin découvre, c'est que la conversion de l'âme dont parlait Socrate dans la République au livre 7, la conversion de l'âme tout entière, c'est la conversion non seulement de l'intellect, mais encore de la volonté. Et c'est cette grande découverte que nous devons approfondir maintenant. Nous noterons que l'âme humaine commence par l'ignorance. Il y a à ce sujet un texte célébrissime, qui est l'allégorie de la caverne de Platon. Alors, si nous la mettons maintenant en regard de l'âme humaine, cela veut dire que l'âme humaine commence par l'ignorance de soi, l'ignorance de toute chose. Et le paradoxe aussi que Platon a parfaitement vu, il l'a montré dans le Ménon, c'est que cette ignorance est d'autant plus redoutable et dangereuse qu'elle s'ignore en tant que telle. C'est-à-dire que l'ignorant se croit savant et en ignorant qu'il est ignorant. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ignorant qui s'ignore. Et la Terre en est remplie. Pour le premier point, le point de départ donc, de l'âme humaine, c'est cette ignorance de soi. Ignorance du monde, ignorance de Dieu, ignorance de toute chose. Cela veut dire encore que l'âme humaine, l'intelligence de l'homme précisément, est nourrie ou remplie de fausses représentations, de fausses images, et elle est dans l'illusion. L'allégorie de la caverne a montré comment l'âme devait sortir de l'illusion, donc le prisonnier devait sortir de la caverne, le prisonnier est prisonnier de l'ignorance, et il se libère en passant de l'ignorance à la connaissance. Cela, Platon l'a parfaitement compris, l'a parfaitement mis en scène avec cette célèbre allégorie de la caverne. Mais ce que saint Augustin découvre, c'est que cette conversion de l'intellect dont parle Platon, c'est-à-dire conversion ici veut dire le retournement, le fait que l'intellect humain doit se détourner de l'illusion et de l'erreur pour se retourner vers la vérité. Ce qu'Augustin découvre, c'est que cette conversion, donc ce retournement de l'intellect est absolument nécessaire, mais n'est pas suffisant. Le premier travail qu'Augustin a effectué, et là encore toutes les confessions en témoignent, du livre 5 au livre 7, c'est un travail d'élucidation, un travail de compréhension plus haute des choses, plus profonde. Et ce travail l'a conduit à perfectionner son intelligence et l'a conduit à la vérité. Augustin le dit clairement au livre 8, au chapitre 5. J'ai la certitude de la vérité. Voilà, certitude de la vérité. Donc, ce qui veut dire que Augustin, par son travail intellectuel, parvient à un point où il n'a plus de doute et encore moins de désespoir à l'égard de la vérité, mais où, au contraire, et en toute précision, il peut reconnaître quelque chose comme vrai. Mais c'est là donc la grande expérience de saint Augustin, je l'ai dit, je le redis, cela ne suffit pas. La sortie de l'opinion, la sortie du préjugé, la venue à la connaissance ne suffit pas à accomplir la conversion de l'âme. Dans la formule de Socrate que je citais tout à l'heure, la conversion de l'âme tout entière, ce qui importe alors, c'est le tout entière. Et ce qui veut dire qu'il ne faut pas seulement opérer un retournement de l'intellect pour le faire sortir des ténèbres de la caverne et le conduire à la lumière de la vérité, ce qu'il faut, c'est opérer une conversion aussi du sentiment, des émotions, grand thème augustinien, et que cela implique encore une conversion de la volonté. Pascal le redira dans une phrase célèbre, « Il y a loin de la connaissance de Dieu à l'amour de Dieu. Nous pouvons connaître sans aimer, ce qui veut dire que nous pouvons connaître sans l'approbation de la volonté, sans que la volonté dise un oui à ce que l'intelligence nous fait connaître.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Il ne suffit pas à un homme de savoir ce qui est bien ou ce qui est vrai pour l'accomplir, parce qu'il lui faut encore le vouloir. Et là encore, notre expérience quotidienne nous le montre. Nous pouvons très bien savoir ce qui est bon pour autrui, pour le monde, pour la nature, que sais-je, et cependant ne pas le vouloir et donc ne pas l'accomplir. Le travail que l'homme a à accomplir pour arriver à une certaine plénitude, une certaine hauteur, est donc en fait extrêmement ardu, parce qu'il y a d'abord une formation intellectuelle à acquérir. Mais pour cela, nous avons des universités, nous avons des livres, et toutes choses qui nous dispensent une connaissance et qui forment notre intelligence. Mais il y a une chose qu'il ne faudrait pas oublier dans les universités, qui est malheureusement fortement oubliée aujourd'hui, c'est la formation de la volonté, ainsi que la formation du désir et la formation des passions, dont je ne parlerai pas davantage maintenant. Revenons donc à la formation de la volonté. Cela veut dire donc qu'il nous faut découvrir la volonté, la puissance de la volonté, mais découvrir aussi l'impuissance de la volonté, et qu'il faut mettre cela en relation avec la question du mal. Nous arrivons maintenant au livre 5 des Confessions, au chapitre 10, un des passages les plus importants pour cette recherche. Augustin commence d'abord par se rappeler quelle a été sa croyance lorsqu'il était jeune homme. Et sa croyance à cette époque était que ce n'est pas l'homme qui pêche, mais comme il le dit, je ne sais quelle autre nature en nous qui pêche. Aujourd'hui, on dirait l'inconscient, telle ou telle impulsion qui vient de la nature ou de la société, des médias, que sais-je. Donc il y a en moi quelque chose qui pêche, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui pêche. Augustin ajoute, il plaisait à mon orgueil d'être en dehors de la faute, d'être hors de cause, hors de faute, et quand j'avais fait quelque mal, je ne voulais pas avouer que je l'avais fait. Le commencement de l'itinéraire d'Augustin est donc un déni de la volonté et un déni de la faute, un déni du péché. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui faute, mais c'est par exemple à travers moi, une mauvaise éducation, de mauvais exemples, en tout cas moi, je n'y suis pour rien. Une des grandes découvertes d'Augustin, qui me paraît capitale aussi pour la suite de la philosophie occidentale et de nos sociétés, c'est la découverte du fait que la faute n'a de sens qu'en première personne. Ce qui est d'abord la première découverte de David dans le fameux psaume 50, « Moi, devant toi, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, dit David à Dieu. » Donc la grande découverte d'Augustin ici, c'est que la faute n'est pas impersonnelle, ce n'est pas « on pêche, on commet des fautes », mais c'est toujours quelqu'un qui le fait en première personne. C'est moi qui ai accompli tala, qui ai menti, qui ai triché, qui ai trahi, que sais-je. Et un premier pas à accomplir ici, c'est le pas qui consistera pour l'homme à passer du « on pêche » à « je pêche et j'ai péché ». Donc, pas qui s'appelle l'aveu de la faute, et cela nous ramène à un des sens du mot « les confessions ». À ce moment-là, l'homme, au lieu de s'excuser, doit au contraire s'accuser et comprendre, assumer sa faute, comprendre donc que c'est vraiment lui qui a accompli cela. Ce pas est accompli par Augustin plus tard au livre 7 des Confessions, chapitre 3. Je lis ce passage. « Une chose maintenant me soulevait vers ta lumière, j'avais conscience d'avoir une volonté autant que de vivre. Aussi, quand je voulais ou que je ne voulais pas quelque chose, ce n'était pas un autre que moi qui voulait ou qui ne voulait pas. » Voilà. Donc la grande découverte ici d'Augustin, c'est le fait que lorsque j'ai agi, c'est bien moi en première personne qui ai agi, moi qui suis responsable de mon acte, en bien ou en mal, et que cette action donc découle d'une puissance de l'âme qui s'appelle la volonté. J'ai maintenant conscience d'avoir une volonté, c'est-à-dire une puissance d'élection, une puissance de dire oui et de dire non, de vouloir et de ne pas vouloir, face à toutes les possibilités, toutes les situations, toutes les choses que la vie me présente. La première découverte ici, donc, c'est celle de la volonté. Et c'est une découverte du fait que la volonté n'est pas l'intellect. Il ne suffit pas de savoir, il y a encore autre chose qui entre en scène, qui est le vouloir. Et la première tâche, donc, nous l'avons vu, c'est la tâche d'éclairage de l'intellect, d'acquisition de la connaissance, mais alors même qu'un homme a acquis la connaissance, ou supposons qu'un homme parvienne à la connaissance de la vérité par l'intellect, son travail n'est pas terminé. Une nouvelle étape se présente, qui est maintenant le travail de la conversion de la volonté. Il est donc bel et bien difficile d'être homme. Le deuxième travail maintenant, c'est le travail de conversion de la volonté. Alors là, nous entrons dans l'admirable livre 8 des Confessions de Saint Augustin. C'est là qu'Augustin fait le récit de cette épreuve intérieure de la volonté. Je reviens en arrière, donc premier acte, rendre les choses certaines du côté de la vérité, parvenir à la connaissance de la vérité. Mais cela ne suffit pas, parce que cette vérité qui m'est présentée par mon intellect, je n'y souscris pas, je ne la veux pas encore pour autant. Il faut donc maintenant vouloir la vérité. Nous sommes au livre 8, chapitre 5, c'est un des passages les plus importants. Augustin découvre quelque chose, là encore, que les psychologues ou les psychiatres connaissent bien, et quelque chose qu'il appelle l'auto-asservissement de l'âme. Cet auto-asservissement consiste dans le fait que, lentement, un homme aura forgé les chaînes de sa propre servitude. Bien sûr qu'un homme peut être en prison, qu'un homme peut être asservi par un autre homme. Mais la véritable servitude, les stoïciens l'avaient montré, c'est la servitude intérieure. C'est être esclave de chaînes dont je suis moi-même l'auteur. Alors comment cela se fait-il? Eh bien, Augustin admirablement comprend cela, certainement en relisant d'ailleurs l'éthique à Nicomaque d'Aristote, mais en ajoutant un point capital qui est, outre l'intelligence et la passion, la volonté. Que dit Augustin? Eh bien, tout commence par un jour où un homme dit oui à quelque chose qui n'est pas bonne pour autant. Mais il pense qu'il dit oui que c'est seulement pour une fois, que c'est ponctuel, que cela ne l'engage à rien pour la suite. Or, quand il a dit oui une fois, en vérité, ce une fois engage toutes les autres fois. Et la deuxième fois qui se présentera, cet homme dira encore oui, et puis encore oui. Nous le voyons clairement dans le phénomène nommé aujourd'hui addiction. Il y a une addiction à la sexualité, addiction aux jeux vidéo, addiction à la puissance politique ou autre. Et nous voyons comment un homme, lentement, à partir d'une volonté faussée, entre dans un processus que progressivement il ne peut plus contrôler. Selon l'image d'Aristote, quand nous avons une pierre dans la main, nous pouvons la jeter, mais une fois que nous l'avons jetée, nous ne pouvons pas faire qu'elle n'ait pas été jetée. La pierre qui a été jetée, c'est trop tard. Eh bien, revenons à Augustin, ça veut dire que la première fois, j'étais libre de ne pas jeter la pierre, mais dès lors que j'ai jeté la pierre a été jetée. Et la première fois a ouvert les portes à la deuxième fois, à la troisième fois, et lentement, parce que je n'ai pas résisté à cette habitude naissante, c'est devenu une habitude installée, et Augustin montre bien comment tout cela se termine par ce qu'il appelle la nécessité. Nous avons donc ici un renversement prodigieux. Tout commence par la liberté de la volonté humaine, qui a le pouvoir de dire oui et de dire non, et en même temps, cette volonté est capable de s'enchaîner elle-même et de passer dans son contraire, de devenir son contraire, c'est-à-dire que la liberté devient une nécessité. La liberté, c'est comme détruite elle-même en tombant dans la nécessité, en tombant dans une dure servitude. Qu'en découle-t-il? Il en découle qu'il peut y avoir donc une opposition entre ce que nous voulons et ce que nous savons. Mais il en découle une chose encore plus embarrassante et plus tragique encore, c'est ce qu'Augustin a découvert ici au livre 8, c'est ce qu'il appelle le conflit de la volonté avec elle-même. Ce conflit de la volonté avec elle-même fait que notre volonté peut être brisée, scindée, en conflit avec elle-même, de telle sorte que nous croyons vouloir quelque chose ou que nous voulons une chose, mais qu'en même temps nous ne la voulons pas parce que nous voulons une autre chose. Et ainsi donc, le conflit n'est pas un conflit entre l'intellect et la volonté. Mon intellect me présente ceci comme bon, mais ma volonté n'y consent pas. C'est encore plus difficile et plus douloureux. Il y a un conflit interne à la volonté. Ma volonté est brisée, elle veut simultanément plusieurs objets, plusieurs fins, et par conséquent, elle ne veut rien véritablement, puisqu'elle se contredit elle-même et qu'elle ne peut donc rien entreprendre et rien accomplir. Voilà, nous avons là un texte tout à fait éblouissant, que nous n'avons pas le temps de commenter en détail, le livre 8 des Confessions, dans lequel Augustin nous montre ce conflit de la volonté avec elle-même. Premièrement, dans conflit de la volonté avec l'intellect. Deuxièmement, conflit de la volonté en elle-même et avec elle-même. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution porte un nom. La solution, c'est ce qu'Augustin appelle le libre arbitre de la volonté. Qu'est-ce que cela veut dire, le libre arbitre? C'est une notion très familière, mais le libre arbitre aujourd'hui est le plus souvent réduit à la faculté de choix. Un peu comme dans un supermarché, vous entrez et vous avez la faculté, donc la liberté de prendre ceci, de délaisser cela. Mais la liberté de choix n'est pas la volonté dans sa vérité ou dans sa plénitude. La liberté dans sa vérité, c'est ce qu'Augustin appelle le libre arbitre de la volonté, c'est-à-dire que c'est la libre disposition de soi de la volonté. Or, que s'est-il passé? Il s'est passé que par une série de démissions, j'ai lentement renoncé à l'exercice de ma volonté libre. J'ai lentement consenti à quelque chose, je n'ai pas résisté à une habitude faussée, de mentir par exemple, et cela est devenu une nécessité, nous venons de le voir. Que faut-il faire alors? Eh bien, il faut restaurer le libre arbitre, c'est-à-dire restaurer le libre pouvoir de l'âme sur elle-même. Il faut parvenir à un oui qui soit un oui, ou bien à un non qui soit un non. Nous retrouvons ici évidemment une des paroles décisives de l'évangile, de la parole du Christ dans l'évangile, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous remarquerez que beaucoup de nos oui sont, cachent des oui mais, oui peut-être, je ne sais pas, et beaucoup de nos non pareillement. La véritable liberté consiste donc à unifier sa volonté pour qu'elle fasse l'élection d'un seul objet, d'une seule fin, et qu'elle dise oui à un seul objet et à une seule fin, c'est-à-dire donc en fait à une seule personne. En fait, donc comment cela se fait-il? Eh bien, c'est très simple. La volonté cesse de se disperser et d'éclater et de se briser en multiples, face à de multiples objets. Elle se ressaisit, elle s'unifie et elle consent à la vérité que l'intelligence lui présente. Mais vous voyez bien donc ici comment cela est un cheminement, comment cela demande de l'effort, du courage, un courage de la vérité et un consentement à la vérité. Quand mille choses nous poussent à rester dans la paresse de l'habitude, dans la paresse de l'illusion, des illusions que nous sommes loin encore d'avoir perdues. La liberté pour l'homme est donc vécue sur le mode d'une libération. L'être humain est celui qui se découvre enchaîné, comme le prisonnier dans la caverne, qui se découvre comme celui qui a à libérer son intelligence de l'ignorance, premier point, et comme celui qui a à libérer sa volonté de la servitude dans laquelle elle s'est elle-même enfermée, pour recouvrer cette libre disposition de soi, pour retrouver donc le libre usage de sa volonté et prononcer un oui qui sera un oui libre.